Dialogue entre Congolais Artisans avec Claude Sainz à la présentation.
Bonsoir et merci d'être nombreux à suivre cette émission Dialogue entre Congolais de mercredi 25 juin 2008. Manifestation contre les casques bleus à Moutabo, Kiwanja et Rutshuru au Nord Kivu. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation et comment éviter dans l'avenir ce genre d'incident? C'est le thème principal du dialogue entre Congolais de ce soir. Nous avons invité pour en parler Sylvie Van den Windenberg, porte-parole intérimaire de la MONU, qui est avec nous ici dans ce studio. Le ministre provincial de l'administration du territoire du Nord Kivu, Kasterika Kalwai, qui intervient par Pio de Goma. Et le rapporteur général de la société civile du Nord Kivu, Thomas Dakin Mouti, qui intervient aussi à partir de Goma au Nord Kivu. Nous avons déjà reçu quelques réactions des auditeurs, parmi lesquelles celle de François Makiambe de Bukavu au Sud Kivu. Ce dernier pense que dans toutes ses actions, la MONUC doit développer une bonne politique d'information publique afin que la population soit bien informée de sa mission. Nous demandons au gouvernement congolais d'être conséquent face à ses responsabilités, estime Jules Capetel de Bounia en province orientale. Enfin, Jean Beck de Goma au Nord Kivu se demande pourquoi ce sont toujours les FARDC qui se désengagent de certaines zones plutôt que les autres forces en présence. Fin de citation.
Dialogue entre Congolais.
Vous voulez participer à cette émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Mais avant d'aborder le thème de ce soir, rendons-nous d'abord à Bruxelles en Belgique où la chambre de mise en accusation de cette ville devait se prononcer sur une éventuelle libération du sénateur Jean-Pierre Bemba, libération provisoire. Rejoignons directement à Bruxelles maître Aimé Kilolo. Bonsoir maître.
Oui, bonsoir.
Vous êtes l'avocat du sénateur Jean-Pierre Bemba. Est-ce que la chambre d'accusation de Bruxelles se prononcer aujourd'hui, mercredi, donc, sur une éventuelle libération provisoire du sénateur Jean-Pierre Bemba?
Ben, il faut savoir que nous sommes effectivement passés aujourd'hui à 14h devant la cour d'appel, chambre de mise en accusation. Monsieur Bemba était personnellement là à la demande de la présidente de la chambre de mise en accusation qui avait souhaité l'entendre personnellement, certainement pour répondre à toute une série de questions que s'est posé en tout cas les trois magistrats qui siégeaient et qui, me semble-t-il, compte tenu des latitudes en tout cas qui étaient plutôt favorables dans leur chef, je pense qu'il s'est demandé véritablement si Monsieur Bemba est libéré, est-ce qu'il ne va pas se soustraire, est-ce qu'il ne va pas prendre la fuite. Et il a eu l'occasion lui-même de leur préciser que c'est sur base d'une décision d'initiative qu'il a prise en concertation notamment avec l'ONU qu'il s'est rendu sur l'espace Schengen, il s'y est établi lui-même tout en sachant qu'une enquête était déjà ouverte à sa charge depuis un peu plus d'une année. Il a aussi précisé qu'il a effectivement des attaches solides, attache sociale, attache familiale avec une présence d'enfants mineurs scolarisés et que tout ceci montrait qu'il avait une famille qui avait établi son centre d'intérêt en Belgique et que donc c'était une garantie en tout cas de représentation devant la justice internationale. Il a eu aussi l'occasion bien entendu de préciser qu'il était tout à fait crédible, il a donné sa parole d'homme d'État qu'en cas de libération, il respecterait toutes les conditions qui seront émises par la chambre de mise en accusation.
Mais quelle est alors la décision de cette chambre d'accusation?
La chambre de mise en accusation n'a pas encore pris sa décision. La présidente qui siège aujourd'hui nous a simplement dit une décision interviendra peut-être encore aujourd'hui mercredi ou en tout cas au plus tard vendredi. Et puisqu'il est déjà 20h à Bruxelles et que nous n'avons pas reçu des décisions, je pense plutôt que nous attendons d'avoir de nouvelles pour vendredi.
Et pour terminer, puisque vous êtes en contact permanent avec votre client Jean-Pierre Bemba, quel est son moral actuellement? Est-il découragé ou il garde encore le moral?
Ben, il faut savoir que M. Bemba va très très bien. Il s'est exprimé brillamment devant les magistrats qu'il interrogeait. Et il faut surtout savoir que son message reste clair. Il dit simplement qu'il attend de pouvoir se présenter le plus rapidement possible devant la justice internationale pour fournir justement des éléments qui sont en sa possession et qui vont certainement démontrer son innocence dans cette affaire, mais il insiste aussi pour que ses droits fondamentaux, notamment le droit à sa liberté, soient respectés et qu'il puisse finalement, au nom de la présomption d'innocence, comparaître libre et pouvoir démontrer devant la juridiction internationale que ce qu'il a fait, c'était simplement de mettre à disposition des troupes sous le commandement direct de l'état-major centrafricain et qu'il n'avait donc pas lui-même le contrôle effectif de ce troupe et que d'autre part n'avait pas reçu d'informations préalables que des éléments de ces troupes s'apprêtaient à commettre des crimes et que finalement il a pris pour sa part toutes les mesures raisonnables et nécessaires lorsque notamment il a mis en place une justice militaire qui a interpellé environ 150 soldats dont certains ont été jugé et ensuite condamné.
Merci beaucoup au maître Aimé Kilolo d'être intervenu en direct de cette émission depuis Bruxelles en Belgique. Je rappelle que vous êtes l'avocat du sénateur Jean-Pierre Bemba qui est actuellement en prison en Belgique. C'est un mandat lancé contre lui le mois passé par la Cour pénale internationale.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 89 066 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Revenons maintenant à notre thème principal du jour. Le calme est revenu ce mercredi à Rutshuru Centre et à Kiwanja après les violentes manifestations contre les casques bleus de la MONUC lundi soir et mardi matin. Cela s'est passé dans ces deux localités voisines situées dans les territoires de Rutshuru, à plus ou moins 70 km au nord de Goma. 2 à 3 000 personnes ont manifesté exigeant le retrait de la MONUC de la localité tampon de Mutabo à 7 km de Rutshuru Centre pour y laisser revenir les militaires FARDC. En effet, les FARDC s'étaient désengagés de cette localité dimanche dernier à la suite d'un accord entre la 6e brigade intégrée basée à Rutshuru, le CNDP et la MONUC. L'heure est maintenant bilan avec vous, Jules Ngala Wamona qui est à Goma.
Bonsoir Gilles.
Bonsoir.
Alors Gilles, qu'est-ce que vous avez comme bilan en termes de victimes en vie humaine?
Écoutez, une réunion de sécurité s'est tenue ce mercredi au chef-lieu du territoire de Mutshuru. À l'issue de cette réunion, il a été établi officiellement que 7 personnes, des civils donc, ont été blessées lors des manifestations de la population de Rutshuru Centre et de Kiwanja mardi. Et sur les 7 blessés, 5 l'ont été par balle. Ils sont même admis actuellement à l'hôpital général de référence de Rutshuru. Les 2 autres ont été blessés par des projectiles lancés par des manifestants, évalués entre 2000 et 3000 personnes. À ce bilan officiel, il faut ajouter au moins 7 militaires de la MONUC blessés par des projectiles lancés par des manifestants, selon la MONUC, mais aussi au moins un militaire FARDC qui faisait partie de la garde rapprochée du vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du Nord Kivu, M. Feller Lutaïtiwa. Celui-ci se rendait en visite de sensibilisation sur le programme Amani dans le Grand Nord, c'est-à-dire à Lubero, Butembo et Beni, lorsque sa délégation a été prise à partie par les manifestants.
En d'autres termes, les manifestants s'entraînaient à tout le monde et non pas seulement à la MONUC.
Bon, selon des sources administratives de Rutshuru, il y a eu un mauvais concours de circonstances. Alors que les manifestants tenaient à ce que les militaires FARDC de la 6e brigade soient réinstallés à Mutabo, dont ils s'étaient désengagés dimanche suite à un accord entre les partis, la délégation du gouverneur, elle, passait par Rutshuru Centre et Kiwanja pour se rendre à Lubero, Butembo et Beni, comme je le disais tout à l'heure. Selon la même source, les manifestants contre les casques bleus auraient saisi l'occasion pour exiger que le gouverneur aille personnellement installer et de force les militaires FARDC à Mutabo pour élever ainsi les casques bleus dont ils ne souhaitaient plus la présence dans cette localité. C'est comme qui dirait donc qu'il y a eu un mauvais concours de circonstances pour suivre cette source. Mais l'objet des manifestants était très clair. La MONUC doit se désengager de Mutabo et laisser ainsi la 6e brigade FARDC se réinstaller dans cette localité tampon entre les FARDC et le CNDP dans le groupement de Boutanga.
À votre avis, Jules, pourquoi la population de Rutshuru préfère-t-elle les FRDC à Mutabo au casque bleu de la MONUC?
Bon, nous avons posé cette même question mardi au président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, lui-même natif de Rutshuru. Il nous a répondu en ces termes, et je cite l'honorable Bari Yangarutuye: les gens pensent que la MONUC a fait quitter les FRDC à cet endroit pour que le CNDP l'occupe, mais ce n'était pas ça la démarche de la MONUC. L'important est que la paix soit rétablie dans plusieurs secteurs à Rutshuru. Fin de citation. Il y a donc, comme vous pouvez bien vous en rendre compte, d'une part la logique de la guerre et d'autre part celle de la recherche de la paix imposée par le processus Amani, une logique qu'il faut inculquer à la population et cela demande du temps, je pense.
Merci Gilles.
Merci à vous aussi.
Vous l'avez compris, Jules Ngala a été contacté par notre confrère Willy Akonda. Merci donc à nos deux confrères pour cet entretien. Sylvie Wildenberg, excusez-moi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la porte-parole intermédiaire de la MONUC. Les gens pensent que la MONUC a fait partir les FARDC pour laisser finalement au CNDP occuper les positions occupées jadis par l'armée nationale. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais je pense qu'une fois de plus, car malheureusement ce n'est pas la première fois que nous assistons à de graves incidents et à des violences très graves dans la région de Rutshuru suite à des incompréhensions majeures. Des incompréhensions majeures sur le rôle de la MONUC et dans ce cas-ci, une incompréhension majeure sur le fonctionnement du programme Amani et sur le rôle de la MONUC joué dans le programme Amani, en particulier en ce qui concerne la vérification du cessez-le-feu et surtout le maintien de la trêve.
Voilà. Est-ce que l'un de nos fidèles auditeurs de Bukavu, François Makiambe, pense que dans toutes ses actions, la MONUC doit développer une bonne politique d'information publique afin que la population soit informée de sa mission? Pensez-vous que ces manifestations sont dues peut-être à une mauvaise compréhension par la population du rôle de la MONUC, notamment dans le programme Amani?
Mais oui, vraiment, je pense qu'il y a une grande part d'incompréhension, mais je voudrais aussi souligner, et je pense que toutes les personnes qui connaissent et qui vous sont d'accord avec ce fait, que cette région est toujours, parce que toujours traumatisée, extrêmement sensible aux rumeurs. Et je pense que c'est un facteur qui a dû jouer. L'incompréhension des mécanismes ajoutée à cette culture de la rumeur qui peut, par une étincelle, vraiment transformer une situation en une crise, et c'est ce qu'on a vu ces deux derniers jours, tout ça est définitivement très caractéristique du Nord Kivu. Alors, est-ce que maintenant la MONUC a failli dans son rôle d'information des publics, des populations, je pense que nous faisons ce que nous pouvons. Radio Capi, vous le savez, joue un rôle important à ce niveau. Nous avons aussi des sessions de sensibilisation, les casques bleus sur le terrain et leurs interprètes font tout ce qu'ils peuvent aussi pour informer les populations de leur rôle. Mais vous savez, il n'y a jamais rien de tel, je dirais, et en l'occurrence dans des situations pareilles, qu'une bonne information diffusée par les autorités locales, civiles et militaires. Or ici, définitivement, il y a eu manque d'efforts de la part des autorités pour bien informer les populations sur le rôle de la MONUC dans le cadre de ce mécanisme du programme Amani. Et les populations on aurait dû expliquer davantage, la MONUC mais aussi les autorités, aux populations pourquoi la MONUC allait se déployer à Mutabo et les FARDC devaient se retirer.
Il y a aussi une question importante, parce que certains Congolais pensent que, parce qu'il y a notre confrère Jules vient de nous dire qu'il y a à peu près plus ou moins 7 blessés, certains pensent que la MONUC aurait pointé ses armes contre les populations civiles. Est-ce que c'est le cas, Madame Sylvie? Vous êtes la porte-parole de la MONUC.
Alors ça, je tiens à le démentir fermement. Monsieur Alan Doss, qui est le chef de la MONUC, l'a fait ce matin en conférence de presse hebdomadaire. Et vraiment, il faut redémentir cette information qui a été, et ça malheureusement il faut aussi le dire, propagée par des gens qui voulaient sans doute de nouveau briser la confiance que les populations pouvaient porter dans la MONUC et pour aggraver la situation. Les casques bleus n'ont jamais tiré pendant les deux jours des incidents sur les manifestants.
Et comment y a-t-il eu des blessés?
Mais écoutez, il y a d'autres forces qui étaient en présence. Je sais qu'il y a certains organes de presse qui ont récolté des témoignages de témoins des manifestations et notamment des témoignages qui font état de certains événements qui se sont produits et qui ne sont pas du fait de la MONUC, et notamment ces civils blessés. La MONUC n'a absolument pas blessé les manifestants, au contraire, 7 casques bleus, vous l'avez entendu, ont été blessés. Je peux vous dire aussi que nous avons les photos, certaines photos de nos casques bleus qui sont extrêmement, je dirais, terrifiantes, parce qu'on voit qu'il y a des balles qui ont été utilisées aussi contre les casques bleus, et ça c'est très grave.
Par la foule ?
On ne sait pas. Alors, une enquête est en cours, évidemment, on ne sait pas qui a tiré, mais je peux vous dire qu'il y a des vestes de casque bleu qui sont, qui contiennent des impacts de balles, comme il y a des pierres énormes qui ont été jetées sur les casques bleus, comme il y a des véhicules qui ont été détruits, et comme ces manifestations ont été extrêmement violentes, et malheureusement, une fois de plus, ont résulté dans des victimes, se sont traduites par des victimes civiles et des casques bleus aussi. C'est extrêmement déplorable.
Merci Madame Sidi. Nous avons également en ligne depuis Goma au Nord Kivu Monsieur Kasereka Kalwage. Vous êtes ministre provincial de l'administration du territoire du Nord Kivu. Bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur le ministre provincial de l'administration du territoire, quelle lecture faites-vous de ces manifestations contre la MONUC?
Je dirais, comme madame la porte-parole, il y a eu, en effet, une incompréhension, disons un malentendu. Donc, c'est un problème de communication. Les populations ont pensé que la MONUC est en train de donner un avantage au CNDP en demandant au CRDC de quitter la localité de Mutomo. Mais, au-delà de cela, il y a bien entendu la grande souffrance de ces populations qui sont dans les camps de déplacés. Je tiens ici à préciser que les premières personnes à avoir commencé la manifestation, ce sont les déplacés du camp de Mourambi qui avaient déjà manifesté avant-hier à partir de 19h jusqu'à 21h. Ce sont des populations qui en ont assez, qui voudraient rentrer chez elles. Comme vous le savez, même les rations alimentaires des humanitaires ont été diminuées, ont été revues à la baisse. Alors les populations ont hâte de rentrer chez elles. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que le vice-gouverneur dont on a parlé est allé au Grand Nord. Nous voulons vite étudier les possibilités de les faire retourner chez elles. Donc, pour le résumer, il y a à la fois un malentendu, mais aussi la grande souffrance, l'impatience des populations qui vivent depuis longtemps dans les camps et qui cherchent un bouc émissaire, qui cherchent une personne à faire porter leur malheur.
Donc,
voilà ma lecture de la situation.
Donc si je comprends bien, la MONUC n'est qu'un bouc émissaire pour à l'endroit vis-à-vis de l'impatience de la population.
Oui, oui, dans le cas précis, c'est la MONUC, mais il y a eu aussi des termes, c'est le gouvernement provincial, c'est l'autorité locale, c'est tout le monde.
Et même le vice-gouverneur.
Le vice-gouverneur. Donc, parfois c'est la MONUC, parfois c'est même nous, les autorités. Personne n'est épargné par ces personnes qui souffrent énormément.
On a entendu dans ce récit de notre confrère Jules Ngala qui est à Goma, le vice-gouverneur a aussi reçu des coups de pierre, des projectiles.
Tout à fait. Tout à fait.
Mais j'ai une question de Jules Capetel de Bougne en province orientale. C'est vrai, la population s'insurge ou manifeste contre la MONUC, mais Jules Capetel de Bougne demande au gouvernement congolais d'être conséquent face à ses responsabilités. Finalement, quelle est la responsabilité du gouvernement congolais en général ou même provincial face à cette souffrance de la population pour laquelle elle manifeste un certain ras-le-bol, une certaine impatience?
Bon, nous essayons de faire au niveau provincial ce que nous pouvons faire. Madame a parlé tout à l'heure du programme Amani. Effectivement, nous sommes en train de faire comprendre à la population ce que c'est que le programme Amani. C'est dans ce cadre que le gouverneur intérimaire se trouve présentement à Beni, après avoir été à Lubero hier. Il y a quelques semaines, il était à Kitenga, il était à Massissi Centre, et au retour, il va passer par Osoro, il va essayer de sensibiliser la population à une bonne compréhension du programme Amani, et il y a des étapes techniques comme le désengagement, comme le cessez-le-feu. C'est le cas présentement, la population ne comprend pas pourquoi la MONUC peut se déployer entre deux forces. C'est effectivement, comme l'a dit madame, c'est pour obtenir la cessation des hostilités, pour faire observer le cessez-le-feu. Donc, toutes ces questions-là doivent être expliquées à la population à travers la sensibilisation que nous avons déjà commencé.
Merci. Oui, rapidement.
Oui, je voulais aussi dire que toutes les fois qu'il y a eu des manifestations, le gouvernement provincial, fait toujours montrer préoccupé. Nous avons toujours fait des descentes à retour pour essayer de faire baisser la tension. La première fois, c'est moi-même qui m'étais rendu à retour. Hier, le gouverneur a tenu une ligne. Ce matin, j'ai demandé à l'administrateur du territoire de réunir toutes les forces vives. Et c'est ce qui a fait obtenir le calme qu'on a observé aujourd'hui.
Donc, en quelque sorte, vous demandez à la population de Mutabo, de Kiwanja, de se calmer, c'est ça?
Tout à fait. L'administrateur l'a déjà fait. Il a continué à le faire à travers les radios locales toute la journée.
Merci beaucoup, M. Katerika Kaloirier. Je rappelle que vous êtes ministre provincial de l'administration du territoire du Nord Kivu et vous intervenez dans cette émission Dialogue entre Congolais à partir de Goma. Au Nord Kivu. Nous avons également dans ce en direct de Goma Thomas Dakin Mwiki. Bonsoir. Bonsoir Thomas Dakin Mwiki. Voilà, Thomas Dakin Mwiki est rapporteur général de la société civile du Nord Kivu. En principe, il doit aussi participer à cette émission. Madame Sylvie, vous êtes la porte-parole intérimaire de la MONUC. On a entendu le ministre provincial parler de l'incompréhension de la population vis-à-vis, à l'endroit, vis-à-vis du rôle que doit jouer la MONUC, notamment dans le programme Amani. Il y a aussi l'impatience de cette population qui est constituée essentiellement des déplacés qui voudraient rapidement rentrer chez elles. Et il a aussi évoqué le problème du désengagement, du cessez-le-feu des différents groupes armés. Mais finalement, ce programme Amani dont il parle. On a l'impression que cinq mois après la signature de l'acte d'engagement par les différents groupes armés, quel est le bilan? Est-ce que ça avance? Parce que certains analystes pensent qu'on fait du surplace.
Tout d'abord, je voudrais dire que je partage pleinement ce qui a été dit par le ministre Kasereka et que je voudrais, au nom de la MONUC, saluer les efforts qui ont été faits et qui ont toujours été faits par les autorités provinciales du Nord Kivu pour, avec la MONUC, tenter, lorsqu'il y a des situations telles que celle-là, de ramener la situation au calme. Et le ministre l'a dit très clairement, la MONUC n'est pas la seule à être la cible de manifestations violentes. Tout le monde peut l'être.
Le gouverneur qui
a déployé beaucoup d'énergie déjà par le passé lors d'incidents précédents avec le gouverneur et avec d'autres ministres provinciaux pour aider à rétablir le calme dans
dans les localités qui étaient sous violence, je dirais. Maintenant, une deuxième chose, c'est que définitivement, cet incident, tout à fait, démontre pleinement les frustrations des populations et leur fatigue par rapport à la lenteur du processus. Et ce processus, il est lent. Il faut le dire, parce que c'est vrai, il est lent, il est même trop lent. Comme vous l'avez dit, ça fait 5 mois que les actes d'engagement ont été signés, cinq mois plus de jours exactement. Et ce matin, M. Landos, d'ailleurs, l'a rappelé aussi lors d'une conférence de presse, vous le savez, il est temps de passer à la vitesse supérieure, il est temps que la commission mixte puisse maintenant traiter des questions de fond qui sont à son agenda. La commission mixte, c'est ses organes subsidiaires. Il est surtout et également temps que toutes les parties qui doivent être assises à cette table arrêtent de, sous des prétextes divers et variés, de manière récurrente, sortir de la table des négociations, suspendre leur participation, puis revenir, etc. Je veux dire, on est maintenant à une période absolument critique où tout est prêt pour qu'on commence à traiter, à poser des actes concrets. Actes concrets, c'est quoi ? Se désengager. Actes concrets, c'est quoi ? Préparer le regroupement des troupes, les envoyer soit au brassage, soit pour celles d'entre elles qui le veulent à la démobilisation pour la vie. Et c'est aussi, tout de suite après, le plus vite possible, permettre le retour de ces de ce, presque ce million de déplacés internes que compte la province du Nord Kivu et celle du Sud Kivu dans leur foyer pour qu'ils puissent reconstruire leur vie. C'est extrêmement fatigant, cette situation. Ça tourne en rond. Donc voilà, nous, la Monique a lancé un appel pressant à toutes les parties pour qu'elles retournent autour de la table et qu'elles restent assises autour de la table. Maintenant, il faut se mettre au travail sérieusement et il faut montrer des résultats concrets aux populations parce que sinon, on va forcément, le cessez-le-feu devient fragile tous les jours un peu plus. Et
on se demande même qui le respecte, c'est ce que c'est le plus finalement.
Oui, effectivement, tous les jours nous avons des petits incidents, mais je pense que vraiment ce n'est pas trop de dire que la trêve de manière globale est respectée. Il y a 52 bases, une cinquantaine de bases des casques bleus de la MONUC réparties dans toute la province. Il y a eu très peu d'incidents entre les FARDC et les groupes armés, si vous l'avez noté. Ce à quoi on assiste surtout, ce sont des petits clashs dus encore à un résidu de méfiance entre les groupes armés, que ce soit le CNDP contre Parico ou d'autres groupes.
Ce qui est tout à fait normal. Hein,
ce qui est normal.
Pour des gens qui se regardaient en chaîne de paillons.
Tout à fait. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est, quand je dis qu'il faut passer aux actes concrets, tant qu'on ne commence pas à travailler concrètement sur le désengagement, il va continuer à avoir des petits clashs. Parce qu'on ne construit pas la confiance entre des gens qui se sont battus entre eux pendant des années en un temps trois mouvements, c'est clair. Donc la confiance autour de la table est en train de se construire, il faut aussi que ça se reflète sur le terrain, et pour ça, il faut qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet, au sein des organes de suivi du programme Amani.
Merci beaucoup Sylvie Van Lindenberg. Je rappelle que vous êtes porte-parole intérimaire de la MONUC. On me signale que Thomas Dakin Mouiki est en ligne depuis Goma. Bonsoir.
Oui, bonsoir, messieurs les journalistes.
Vous êtes rapporteur général de la société civile du Nord Kivu, en marge de ces manifestations de populations de Mutabo, Kiwanja et Rutshuru contre la MONUC, les casques bleus de la MONUC. Mais il y a ce problème, la concrétisation, au fait, du programme Amani qui ne se fait pas à la vitesse souhaitée. Est-ce que vous partagez le même avis, comme le pensent nos invités qui sont ici?
Affirmatif. Vous savez que le programme Amani s'est doté d'un calendrier. Alors, pour ce qui concerne la commission mixte, mais ce calendrier semble ne pas être respecté à la lettre, puisque jusqu'aujourd'hui, on devait déjà être à la phase de désengagement, de cantonnement et passer directement à la phase du brassage. Mais rien n'est vu sur le terrain. Un autre élément que je constate dans le programme Amani, c'est par exemple ce que fait le gouverneur de la province. Il a été à Masisi, il a été à Kitanga chez Laurent Kunda, il a été à Boremana, c'est bon. Mais je constate que c'est encore insuffisant parce que, à mon avis, et c'est l'avis même de toute la société civile du Nord Kivu, il faut une sensibilisation de proximité.
C'est-à-dire...
Il serait intéressant qu'il y ait des sensibilisateurs dans les territoires. Après le passage du gouverneur à Kitanga, qu'est-ce qui est resté en train d'être fait? Après son passage à Massifi, qu'est-ce qui est resté en train d'être fait? Je ne pense pas qu'il y ait de mécanismes de pérennisation des actifs qui sont menés par le gouverneur. Et c'est ça le problème. Il y a un autre élément. On dit que tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. C'est-à-dire quoi? La population qui a longtemps souffert, comme on dit que ventre creux n'a pas d'oreille. Et donc il faut comprendre que cette population qui a tant souffert, qui est dans des camps de déplacés, qui avait droit à 12 kilos de rations par l'aide humanitaire, mais qui a été réduit à la baisse jusqu'à 6 kilos par mois. Donc cette population a l'envie de rentrer chez lui dans son village, aller continuer ses activités champêtres. Mais cela n'est pas rassurant, puisque on constate que les choses n'évoluent pas. C'est pourquoi nous demandons que le programme Amani puisse établir un programme de proximité, de sensibilisation de proximité.
Ça, vous l'avez déjà dit.
Tout se passe sur le terrain, que la population soit informée. Par exemple, l'incident qui est arrivé entre la population et la MONUC à Kiwanga. Je pense que ce sont les rumeurs qui ont fait que la population descende dans la rue et commence à jeter des pierres contre la MONUC, puisque la population n'a pas été informée de ce qui s'est passé à Mutombo. Voilà un peu la lecture que nous faisons au niveau de la société civile par rapport à cet incident.
Merci, je réponds, je retiens de vous que vous dites que le calendrier établi en ce qui concerne le programme Amani n'est pas suivi à la lettre. On devait déjà être à la phase de désengagement pour passer au brassage et à la démobilisation. Et puis les efforts du gouverneur sont insuffisants, c'est-à-dire qu'après vous prenez une sensibilisation de proximité, c'est-à-dire qu'après le gouverneur, normalement, il doit y avoir peut-être quelque chose qui reste pour continuer son travail. Et puis, vous dites également que les incidents contre la MONUC sont dus simplement à une rumeur. C'est-à-dire que la population ne comprend pas très bien le rôle de la MONUC. J'ai quelques réactions ici à Paul Motingea de la ville province de Kinshasa qui déclare ce qui suit. Qu'on laisse la MONUC calme, car c'est grâce à elle que la paix est rétablie dans ce pays et que nous tendons vers la démocratie. La sécurité de la RDC, affirme cet auditeur, dépend du gouvernement et non de la MONUC. Je demande à ce que vous puissiez répondre à cette observation, M. Kassereka Kaloare. Vous êtes ministre provincial de l'administration du territoire du Nord Kivu.
Je suis tout à fait d'accord avec l'auditeur de Kinshasa. Il est tout à fait vrai que c'est grâce à la MONUC que nous sommes à l'état que nous sommes aujourd'hui. Je rappelle ici que la MONUC est venue quand le pays est encore divisé en deux parties et que aujourd'hui les hostilités ne concernent plus que deux territoires sur 145 à peine. Donc nous ne pouvons pas sous-estimer ici le travail de la MONUC. Et comme gouvernement, que ce soit le gouvernement central, que ce soit le gouvernement provincial, nous travaillons en parfaite collaboration avec la MONUC. Et nous savons que la MONUC va nous aider à trouver la solution définitive à ce problème d'insécurité à l'Est.
Mais il dit également que la sécurité de la RDC dépend du gouvernement congolais et non de la MONUC.
C'est ce que je voulais en arriver là. Le gouvernement aussi est en train de faire sa part. Le gouvernement doit aussi faire son travail. Nous, au niveau provincial, je le dis encore, nous sommes en train de faire notre travail.
Qu'est-ce que vous faites
pour le moment? La sensibilisation, Et même, nous participons dans le financement du programme Amani. Comme vous le savez, le programme Amani a des problèmes de financement. Jusque-là, les partenaires de la communauté internationale n'ont pas encore disponibilisé les fonds. Ils nous arrivent de financer en certaines opérations, certaines activités du programme Amani.
Merci.
Bon, je m'inscris en faux contre celui qui a dit que ce que le vice-gouverneur fait n'est pas suffisant. Mais ce que le vice-gouverneur fait, il le fait avec la société civile et partout où il passe, il laisse des comités de suivi au niveau des territoires. Donc, le vice-gouverneur qui a beaucoup travaillé dans la société civile, il fait connaît bien le rôle de la société civile et il est en train de la faire participer dans tout ce que nous faisons.
Merci beaucoup, Monsieur Katereka Kaloare. Madame Sylvie Van den Windenberg, vous êtes la porte-parole intérimaire de la MONUC, qui a une question pour vous ici, qui vient de du Nord Kivu. Elle nous vient de Madame Lubemba, qui vous demande pourquoi la MONUC crée des zones tampons en RDC et notamment à l'Est, au moment où les populations souffrent. Pourquoi la MONUC crée-t-elle des zones tampons? C'est dans le cadre de programmes à Mali ou des actes d'engagement?
Voilà une question qui reflète bien le manque de compréhension du processus à Mali et le rôle de la MONUC. Nous allons le réexpliquer, je peux vous assurer que nous allons renforcer la sensibilisation à ce niveau au Nord Kivu. Pourquoi la MONUC crée-t-elle des zones tampons? Parce que en vertu des accords de Goma, en vertu des actes d'engagement consignés toutes les parties, c'est-à-dire le gouvernement et tous les groupes armés au Nord et au Sud Kivu, il est notamment établi que pour empêcher, pour maintenir la cessation des hostilités, pour assurer que la trêve puisse durer et que le cessez-le-feu puisse durer, on va créer une série de zones tampons dans les endroits où les forces en présence sont trop proches l'une de l'autre pour empêcher qu'elles ne recommencent à se battre. Vous savez, comme je le disais tout à l'heure, la confiance des uns dans les autres n'est pas encore assez renforcée, et donc on n'est pas à l'abri de petits incidents. Et vous savez comme moi, un petit incident, ça peut se transformer en une grosse crise. Donc l'idée des zones tampons est de remettre certains endroits à la MONUC pour qu'elle en assure la sécurité, et c'est évidemment le cas de Moutabo, c'est pour éviter que de nouveaux incidents n'arrivent. Il n'est pas question évidemment de se substituer au FRDC à long terme. Il est question de protéger une zone pour empêcher que des parties n'aient de nouveaux accrochages. Et dans le cas présent, c'est ça qu'on appelle.
Ça s'opérera pendant combien de temps?
Mais justement,
les tampons, elles vont durer pendant combien de temps?
Mais justement, c'est là qu'est tout le problème, et on a parlé de la lenteur du processus. Si on avait respecté le calendrier, on n'en serait plus là, il n'y aurait plus de zone tampon. On serait déjà bien plus loin. Les FRDC pourraient se redéployer partout et restaurer l'autorité de l'État, et les groupes armés seraient tous déployés sur le terrain aussi au sein de l'armée, comme des militaires servant leur armée nationale, ou bien ils seraient chez eux en train de vaquer à leurs occupations parce qu'ils auraient choisi le retour à la vie civile. Donc évidemment, tout ça montre combien il est urgent d'avancer dans les travaux de la commission mixte et de ses organes subsidiaires. Et je voudrais ajouter une chose parce que c'est très important. Il faut saluer la sagesse des troupes FRDC qui, pour le moment, et depuis la signature des actes d'engagement, sont quand même dans une position extrêmement difficile. C'est une armée jeune, nouvelle. On leur demande, on essaye de sensibiliser les populations sur le fait qu'ils ont une armée nouvelle, jeune, disciplinée, etc. Et puis cette armée voit, ces populations voient leur armée qui sont obligées de se retirer de certains endroits pour confier la sécurité d'un endroit à la MONUC. On peut comprendre que ça soit difficile à comprendre pour les populations. Il faut un peu de patience. Quand le processus de paix va avancer vers des résultats concrets et que les groupes armés vont enfin procéder au désengagement, les FRDC pourront jouer leur rôle, le rôle qui leur est attribué, savoir s'occuper de la sécurisation du territoire.
Madame Sylvie, peut-être rapidement, mais d'après vous, pourquoi les groupes armés ne sont pas pressés à se désengager de leur position alors qu'ils avaient signé le 23 janvier 2008 cet acte d'engagement? Qu'est-ce qui bloque finalement? Il y en a qui viennent dans les différentes commissions du programme Amani et se retirent et reviennent de façon intempestive. qui ne favorise quand même pas l'avancée de ce programme.
Mais bien entendu, je ne vous le fais pas dire, et c'est une excellente question, évidemment, que je pense qu'il serait temps de reposer au groupe armé, alors qu'on est maintenant effectivement 5 mois après la signature des engagements. Qu'est-ce qui est à la base de vos tergiversations? Qu'est-ce qui vous fait, vous vous êtes engagé et vous continuez de tergiverser, de rentrer, de sortir dans le processus? Est-ce que vous voulez, cela pose la question de savoir quelle est la sincérité de leurs engagements.
Exactement.
Hein? Donc voilà, maintenant, c'est ce que le chef de la MOUC a voulu faire ce matin aussi en lançant cet appel à tous à retourner à la table et à ne plus en sortir. Montrez la sincérité de vos engagements. Par des actes concrets.
Puisque vous parlez du chef de la MONUC, Alain Dos, tout en saluant l'intervention des autorités nationales pour avoir calmé le jeu, selon ses propres termes, oui. Alain Dos appelle les différents belligérants à accélérer la mise en œuvre de l'acte d'engagement de Goma pour permettre le retour effectif de la paix dans cette partie du territoire. Les propos d'Alain Dos ont été recueillis par notre consoeur Justine Nassau.
Je voudrais, en ma qualité de co-facilitateur, exprimer mon inquiétude face à la lenteur du processus de paix de Goma. Il est impératif que la Commission technique mixte sur la paix et la sécurité et ses organes subsidiaires commencent enfin à discuter des questions de fond. Je veux parler ici du calendrier des désengagements, du brassage, du retour des populations chez elles et des nombreuses autres questions importantes que ces organes sont appelés à traiter. Pour ce faire, il est indispensable que toutes les parties concernées restent une fois pour toutes assises autour de la table et que les uns et les autres cessent de paralyser le processus de manière récurrente en suspendant leur participation aux travaux de la Commission sous divers prétextes. Il est aussi urgent que les instances législatives congolaises prennent les dispositions qui s'imposent afin de permettre la mise en œuvre concrète des actes d'engagement et notamment sur la loi sur l'amnistie.
Monsieur Kassere Kaloirier, vous êtes ministre provincial de l'administration du territoire du Nord Kivu. Vous intervenez depuis Goma. Vous venez de suivre Monsieur Alain Dos, le numéro 1 de la MONUC. Il voudrait que quand même ce programme à Mani ou cet acte d'engagement de Goma soit finalement sa mise en application, soit accélérée. Il parle notamment du processus du désengagement des belligérants, du brassage, du retour de population dans leurs contrées respectives, et puis que les législateurs également puissent statuer sur la loi concernant l'amnistie. Mais pourquoi finalement ça bloque? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi ce processus n'avance pas rapidement d'après vous?
Bon, c'est pour toutes ces raisons qui ont été citées. Peut-être que je vais y revenir parce que je suis aussi membre de la commission technique.
Du programme Amani.
Justement la mauvaise foi de certains acteurs. Et à ce sujet, nous avons proposé qu'ils puissent prêter serment. Nous avons même préparé le texte de la prestation de serment. Nous pensons que en prêtant serment, ils vont se sentir liés.
S'il vous plaît, à moins que je ne me trompe, mais je crois avoir assisté à une cérémonie semblable lors de la conférence sur la paix, le développement et la sécurité au Nord Kivu. Moi, j'étais présent. Je crois qu'il y a les représentants des groupes armés ont même prêté serment, à moins que je ne me trompe.
Non, ils avaient plutôt signé. Mais dans le règlement intérieur de la commission, on a posé hier, il y a un article qui pose qu'on doit prêter serment et le texte est même déjà préparé. Et nous, c'était le retrait, la suspension de la participation aux travaux du CNDP de FRF. Je crois que cette activité aurait déjà eu lieu. Nous pensons que sur le plan symbolique, c'est important, ça peut lier les acteurs.
Merci beaucoup, nous n'avons plus beaucoup de temps, 30 secondes s'il vous plaît. 15 secondes.
Oui, nous pensons aussi qu'il faut vite faire l'évaluation des travaux, comme il y a une prévue dans le programme Oman, ce qu'on appelle le cadre de concertation, où on retrouve le gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale et les acteurs de la société civile. Nous sommes en train de préparer justement une séance d'évaluation.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Sidi, vous vouliez réagir facilement
Je comprends la démarche du proposé par le ministre Kassarika, mais je pense que la meilleure prestation de serment qu'on pourrait demander à ce stade au groupe armé, c'est de faire un acte concret. Hein? et tous les groupes armés savent très bien de quel acte concret on parle, puisqu'il y a un calendrier, il y a des étapes au processus et aux travaux de la commission, et tout le monde sait très bien quel premier acte concret il peut faire.
Merci, Madame Sylvie. C'est pas avec vous, Thomas Dakin-Mouiti, rapporteur général de la Société civile du Nord Kivu. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ces incidents et faire avancer justement le processus à Mali? Rapidement, 30 secondes.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord retirer quelque chose qui a été dit par le ministre provincial.
Rapidement,
moi, je n'ai pas dit que ce que fait le vice-gouverneur est insuffisant, mais plutôt j'ai dit qu'il faut faire plus que ça. Et il faut que la sensibilisation soit menée de la manière la plus proche de la population. C'est-à-dire que toute la population doit être informée de ce qui se passe par rapport au programme Amani. C'est ce que j'ai dit. Par rapport à ce que vous me demandez tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces incidents...
En un mot, s'il vous plaît.
Pour mettre fin même à ces incidents, je pense que c'est de demander aux groupes armés de respecter leur engagement.
Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Guy Maté, préparée par Ouya Konda et mise en onde par Jean-Claude Scala. Guy Roger n'ayant pas là recueilli les réactions des auditeurs. Merci à notre confrère Jules Ngala et notre rédaction de Goma. Merci à tous nos invités. Au revoir et bonne soirée.